Bonjour à toutes et à tous. Donc la présentation que nous vous proposons aujourd'hui, elle a pour sujet la révolution du punk britannique en tant que mouvement social. Le punk qui a émergé dans les années 1970, il a incarné une rupture qui était radicale avec les conventions établies. Et cette révolution, elle s'est manifestée à travers la musique, la mode, la langue, mais également des idéologies contestataires. Donc c'est pourquoi nous allons aborder ce sujet sous trois angles différents. Tout d'abord, un axe linguistique, à travers une étude sémantique du lexème punk. Deuxièmement, un axe civilisationnel, où nous nous concentrerons sur le contexte historique et socio-économique dans lequel a émergé le punk. Et enfin, un axe littéraire, dans lequel nous analyserons l'impact du punk dans la littérature. Donc, pour la partie linguistique, on va commencer. Qu'il soit nom ou adjectif, le mot punk a une étymologie assez obscure, et personne ne sait véritablement d'où il vient. Néanmoins, la première trace écrite que l'on a du lexème punk remonte à 1575, selon l'Oxford English Dictionary, c'est-à-dire dans les débuts de l'anglais moderne précoce. Il était alors synonyme de prostituée, et c'est même dans ce sens qu'il a été utilisé par William Shakespeare dans plusieurs de ses pièces. Trois siècles plus tard, en 1904, le mot punk conserve son caractère sexuel, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique. En effet, c'est dans les prisons américaines qu'il vient désigner un homme jeune ou faible, utilisé comme partenaire homosexuel passif. À partir de là, de nouveaux sens de punk continuent d'émerger progressivement pendant toute la première moitié du XXe siècle, mais ils s'éloignent de ses racines sexuelles afin d'acquérir un sens qui se centre plus sur l'aspect marginalisant de ce mot. On peut alors dire qu'il subit une spécialisation sémantique. Punk vient alors désigner une personne peu impressionnante physiquement, puis quelqu'un de mauvais, ensuite de moche ou de sans valeur, voire littéralement un vaurien. À partir des années 50, il s'emploie de plus en plus pour référer à des jeunes délinquants. Ce que l'on peut retenir de tout ça, c'est que le punk, le mot punk, a une valeur appréciative qui est très forte, en tout cas avant l'essor du mouvement musical, car c'était un lexème purement péjoratif et marginalisant, voire même déshumanisant. Mais le sens du mot punk a véritablement été détourné par le mouvement musical du même nom, car dans son sens musical, punk aurait été utilisé pour la première fois en 1969 par Lester Bangs, un journaliste et critique musical, qui s'en est alors servi pour critiquer de manière assez virulente les membres du groupe Motor City 5 en les qualifiant d'une bande de punk de 16 ans en plein trip de méthadone. Mais cet emploi était à l'origine d'une profonde mutation dans la sémantique du mot punk, car le mouvement musical du même nom devient alors vite très populaire. Beaucoup de magazines de l'époque n'hésitent pas à réemployer le terme, mais cette fois-ci dans un sens qui n'est pas nécessairement péjoratif, mais plutôt neutre et qui tendrait même plutôt vers le mélioratif dans certains contextes, afin de parler d'un mouvement qui se veut anticonformiste et qui favorise la créativité et la liberté d'expression. On peut alors parler de désémantisation, car punk perd de sa charge péjorative, et on pourrait même parler d'élévation sémantique dans les cas où il est employé de manière positive. De fait, les groupes musiciens punk se mettent alors à utiliser le mot également et le revendiquent même pour son aspect subversif. Suicide est le premier groupe à l'utiliser pour décrire sa musique et il prône un style de musique qui déconstruit le rock et qui se veut également autodestructeur dans ses performances sur scène. À partir de là, le lexème punk est bel et bien détourné sémantiquement et est donc adopté en lien avec la philosophie punk. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça après l'héritage du punk? C'est qu'après l'essor du punk britannique, on peut faire plusieurs constats sur l'empreinte linguistique qu'a laissé ce détournement sémantique dans la langue anglaise. En effet, on parle d'un mot originalement très marginal dans l'usage, qui devient assez courant après l'essor du mouvement musical. C'est ce que l'on peut observer sur ce graphique, où entre 1960 et 1980, le lexème punk devient quatre fois plus fréquent dans la langue anglaise. Ensuite, le sens de punk a subi un véritable glissement sémantique. Il a un sens qui, par essence, se veut péjoratif, mais au final, c'est en cela qu'il cesse de l'être. C'est précisément cette connotation négative qui a permis au mouvement punk de s'approprier le mot et d'en faire un symbole d'affirmation et de rébellion. On peut aussi remarquer un certain figement sémantique, car le sens du mot n'a pas forcément beaucoup évolué depuis lors, et on peut même dire que le dernier sens est devenu aujourd'hui le premier. Enfin, malgré son figement sémantique, punk reste néanmoins mobile linguistiquement, puisqu'il est et a été à la source de nombreuses créations lexicales, à l'image de mots dérivés comme punkette, punk-ass, punkster, punkabilly, cowpunk, cyberpunk et encore d'autres. Donc, quoi qu'il en soit, on peut dire que la révolution punk a détourné sémantiquement le lexème punk et a été à l'origine d'un renouvellement à la fois dans le lexique, mais également dans l'usage de la langue anglaise. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Alexandre.
Alors maintenant, nous allons nous pencher sur les origines du mouvement punk en tant que révolution musicale et sociale. Les origines du mouvement punk sont enracinées dans un mélange d'influences sociales, politiques et musicales qui ont émergé dans les années 1970. Il s'agit d'une réaction contre la culture dominante, la musique rock commercialisée et les difficultés socio-économiques de l'époque. Les racines du punk remontent aux groupes de garage rock et de proto-punk des années 1960 et du début des années 70. Des groupes américains comme The Stooges, MC5 mentionné par Mathieu précédemment, et The New York Dolls ont créé un son brut et agressif qui rejetait le rock poli et commercial de l'époque. Leur musique était forte, simple et remplie d'énergie qualifiée d'anti-establishment, posant ainsi les bases du punk. En 1969, la sortie de Kick Out the Jams par MC5, un des premiers morceaux considérés comme précurseur du punk, a une grande influence. Et ensuite, en 1973, The Stooges sortent Raw Power, un album qui influencera toute la génération punk. Au Royaume-Uni, la scène pub rock a joué un rôle similaire. Des groupes, comme Dr. Feelgood and the Damned ont adopté un style dépouillé et énergique, contrastant avec une musique rock surproduite de l'époque. De l'autre côté de l'Atlantique, à New York, au milieu des années 1970, la scène punk s'organise autour du club CBGB, où se produisent des groupes comme The Ramones, Patti Smith, Television et Blondie. Leur musique est rapide, directe et rebelle, rejetant les instrumentalisations complexes au profit de morceaux courts et énergétiques. En 1974, les Ramones jouent leur premier concert au CBGB, marquant les débuts du punk new-yorkais. Et Patti Smith, l'année suivante, sort Horses, un album qui fusionne punk et poésie, devenant un pilier du mouvement. Pendant ce temps-là, à Londres, le punk explose en une véritable révolution culturelle. Des groupes comme The Sex Pistols, The Clash et The Damned donnent au punk une dimension politique, utilisant leur musique pour critiquer le gouvernement, la monarchie et les inégalités sociales. Le punk naît dans un contexte de crise économique, de chômage de masse et d'instabilité politique. De nombreux punks accusent les politiciens de favoriser les élites et les grandes entreprises au détriment des jeunes issus de la classe ouvrière. L'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en mai 1979 marque un tournant pour la Grande-Bretagne. Sa politique conservatrice, connue sous le nom de Thatcherism, met en avant le capitalisme de marché, la privatisation et la réduction des aides sociales. Ces mesures aggravent les inégalités économiques et alimentent la colère du mouvement punk. Enfin, en 1977, les Sex Pistols attaquent directement la monarchie et le gouvernement avec God Save the Queen, qualifiant le Royaume-Uni d'un régime fasciste. Et en 1981, The Clash sort Know Your Rights, dénonçant les violences policières et les injustices sociales. Le mouvement anarcho-punk, représenté par Crass, Conflict et d'autres groupes, devient un mouvement contestataire contre le militarisme et le capitalisme. Il y a également une autre figure politique qui est fortement contestée, Ronald Reagan. Aux États-Unis, le punk s'oppose également au gouvernement, notamment à Ronald Reagan, président à partir de 1981. Son mandat incarne le conservatisme, le nationalisme agressif et l'expansion militaire, des valeurs que les punks rejettent violemment. En 1979, Dead Kennedys sort California Über Alles, une satire du totalitarisme politique. Et en 81, We've Got a Bigger Problem Now critique Reagan en le comparant à un dictateur, comme on peut le voir sur les photos. Et pour terminer, en 84, la sortie de My World, de Black Flag, un groupe émergent et très important du hardcore contestataire, fait émerger le hardcore punk et devient une forme plus brutale et politisée du punk, influençant des générations d'activistes et de musiciens engagés. Pour conclure sur cette partie, le punk n'a pas seulement été un genre musical, il a été une révolte culturelle et politique contre les injustices de New York à Londres, en passant par Washington DC et Los Angeles. Le mouvement punk a dénoncé les abus de pouvoir, défendu l'indépendance artistique et inspiré des générations entières à rejeter l'autorité. Il a également marqué son époque en inspirant la mode et d'autres genres musicaux, des groupes que vous connaissez sûrement comme Nirvana, Alice in Chains, Rage Against the Machine ou alors d'autres groupes, un peu moins connus comme Mayhem en Norvège ou alors Slipknot pour leur activité sur scène. On peut conclure que le punk n'est pas mort mais qu'il continue de se battre. Donc, je vais passer la parole à Corentin.
Merci. Donc moi de mon côté je vais m'intéresser à l'aspect un peu littéraire, enfin du moins le renouveau littéraire grâce au mouvement punk depuis les années 70. Donc concrètement, l'influence du punk dans la littérature, c'est un phénomène qui reflète une volonté, donc, comme on l'a précisé auparavant, de rébellion, de contestation, de non-conformisme, et qui caractérise comment ce mouvement dans la musique, l'art et surtout la culture en général. Ça touche à tous les points. Donc, comme précisé auparavant, né dans les années 70, le mouvement punk vise une attitude dite anti-establishment, avec un esthétique de la rupture, avec des normes conventionnelles et une volonté de reconsidérer les normes sociales et culturelles. Donc l'influence du punk dans la littérature peut être vue au travers de différents éléments, que ce soit avec une attitude radicale, l'esprit de rébellion, le rejet des conventions littéraires traditionnelles, et un accent qui est mis sur l'individualisme, la critique de la société de consommation ou encore l'aliénation, qui sont quelques-uns des éléments fondateurs du mouvement. Plus précisément, si, concernant l'aliénation, la société de consommation, l'homogénéité des valeurs et l'absence de sens, ce sont des motifs récurrents dans la littérature punk qui tend à exprimer la rébellion contre les structures considérées comme étouffantes, forcément. L'esthétique du choc et la subversion, donc, qui vise le renversement de l'ordre social ou politique, est pleinement présente dans la littérature aux côtés de l'exploration des violences physiques et ou psychologiques. On peut tout autant trouver une certaine déconstruction des normes littéraires et narratives. Donc, par cette déconstruction, on parle de fragmentation, donc à savoir que les récits sont souvent non linéaires, brisés ou fragmentés en petits morceaux qui peuvent sembler déconnectés. Donc cette méthode de narration peut être perçue comme une critique de la société moderne qui semble elle-même fragmentée et incohérente. De plus, on a le rejet de l'autorité, qui est sûrement l'aspect le plus connu du mouvement punk, enfin du moins celui qu'on va retenir en général. Comment donc surtout que ce rejet de l'autorité est considéré comme l'aspect principal quand on sait que le punk c'est un cri envers toute forme d'autorité et d'oppression sociale, politique et culturelle. Concernant les écrivains dits punk, la plupart des écrivains influencés par le mouvement punk sont bien éloignés des types d'écriture conventionnels. Ils ont une tendance à être beaucoup plus crus, provocateurs et expérimentaux. Donc parmi ces auteurs, on peut y trouver quelques figures bien connues, donc de notre côté en France, étant donné que ça a une portée quand même internationale. Avant l'heure, on a eu le droit à Jean-Paul Sartre ou Albert Camus, qui étaient notamment connus pour leur position quand même relativement à contre-courant de la société, donc notamment avec leur positionnement concernant l'existentialisme, la confrontation avec la société aliénante ou encore l'idée de liberté individuelle, qui sont des thèmes qui font bien sûr écho au mouvement punk, bien qu'ils aient écrit avant l'explosion du punk dans les années 70. Sinon, concernant des écrivains récents, on peut citer Katie Hacker, Stewart Home ou Julie Burchill, qui à leur manière ont aidé à entretenir le mouvement au fil des années, à travers leurs romans et leurs fictions. Donc concernant la méthode de propagation, comme dit dans un exposé précédemment, le mouvement a été encouragé par la création des fanzines. Donc c'est des publications auto-éditées qui permettent la facilité de diffusion des idées punk. Donc là on parle d'un style DIY, donc do it yourself, qui permet de diffuser des idées du mouvement sans passer par les méthodes traditionnelles d'édition. Donc cette méthode des fanzines est dans la veine directe du mouvement, donc en contournant les normes de base imposées par la société. Donc à partir de là, on parle de passage de main à main, parce que forcément les éditions, ou du moins les impressions, étaient quand même relativement limitées. Donc propagation main à main, ou pendant des événements, ou même par la poste en soi. Même maintenant, il existe encore des bibliothèques qui sont spécialisées dans les fanzines, justement. Donc pour conclure sur ce petit passage, le punk a laissé une empreinte importante sur la littérature en introduisant de nouvelles formes narratives, en élargissant le champ des sujets traités et en encourageant une écriture beaucoup plus libre, non censurée et radicale. Donc ce mouvement continue d'inspirer de nombreux écrivains qui cherchent à explorer les marges de la société et de remettre en question les normes établies. Et ça concerne bien évidemment la culture en général et l'art en général.
Pour conclure, on peut dire que le mouvement punk a réellement été un exemple de détournement à bien des égards, que ce soit sur le plan linguistique, mais civilisationnel ou littéraire également. Et la révolution punk a véritablement été une source de renouvellement, que ce soit dans la langue, la société et l'esthétique. Voilà, merci pour votre attention.
Donc on va passer aux questions s'il y en a. Merci pour votre présence.
Je sais que dans l'article de Twain est sorti, la BBC a totalement bloqué la diffusion de la chanson et elle a été totalement bannie des radios. Et pourtant, il a été révélé qu'en Espagne du Sud, la chanson était arrivée au numéro 1 des charts. Et ce que la BBC finit par révéler dans les années 2000. Et du coup, je me demandais si vous aviez un avis sur ce que ça révèle sur un plan politique, le fait que la BBC bloque l'accès d'une telle chanson aux habitants du Royaume-Uni.
Alors moi je sais qu'en faisant mes recherches, j'ai remarqué que comme la plupart du temps la musique avait circulé dans les bars indépendants ou alors un peu dans les rues et tout ça. Et en fait, je sais que en fait, ça montre une réelle volonté de bloquer la façon de penser de ces jeunes Britanniques justement qui commençaient à s'émanciper et qui avaient ce désir de, entre guillemets, on peut faire référence à... Je crois que c'est une phrase de The Clash dans London Calling, où justement ils appellent, il dit « Come out of the cupboards, you boys and girls », appeler justement les jeunes à sortir du placard et vraiment littéralement se révolter contre ce qui se passe actuellement. Et je pense que justement ça montre une volonté de bloquer, entre guillemets, cette façon de penser et peut-être, on va dire, formater la population d'une certaine manière. Donc... c'est ce que j'ai retenu, du moins, pendant mes recherches.
Vous avez une autre question?
Je vais faire un lien avec le sujet, du coup, si je peux te permettre. Vu qu'on a vu que pour le cadre du cadre, c'est très vite devenu très commercial et a fini vite par perdre son fond idéologique et politique, est-ce que on a vu quelque chose de similaire avec le punk, par exemple avec Rivière de Mestre, ou est-ce que c'est resté profondément politique et anticonformiste?
Je peux peut-être répondre, oui. D'une certaine façon, oui et non, parce que je pense que contrairement au début de l'essor du mouvement punk, le mot n'est plus autant connoté négativement, surtout pour nous, jeunes générations, qui n'avons pas vraiment connu cet essor. Je dirais que quand on entend punk, on n'a pas forcément une image négative en tête, on pense surtout à la musique. Et puis comme tu dis, Vivienne Westwood, c'est vrai que ça a pas mal contribué à rendre un peu mainstream tout ce qui est l'esthétique punk. Mais je dirais quand même qu'il y a aussi toujours cette valeur subversive qui reste, notamment dans des mouvements assez récents. Je pense à tout ce qui est l'art punk ou même le féminisme punk, qui prend vraiment cette idée de valeur d'indépendance et de liberté individuelle, je pense.
Merci beaucoup. Moi, j'ai appris plein de choses parce que je ne connais rien du tout à ce moment. D'abord, j'ai appris que j'étais aussi vieux que le punk. Ça me fait plaisir. Et ensuite, j'avais deux questions, une sérieuse et une pas sérieuse. Je commence par la sérieuse et qui rejoint un peu ce que vous avez demandé à l'instant. J'ai compris de ce que vous disiez qu'il y avait quand même une forte aspiration individualiste dans le mouvement punk, que c'était une des valeurs qui était défendue par le mouvement lui-même. Et en même temps, et c'est ça que je trouve à la fois presque un peu contradictoire, mais en même temps très intéressant, c'est pas une forme d'individualisme qui se replie sur soi, c'est une forme d'individualisme qui conteste la société comme structure écrasante, comme carcan qu'on voudrait justement dénoncer. Donc finalement un individu qui en même temps est conscient qu'il est entouré par d'autres individus et qui vise la libération de l'individu face à une société qui l'opprime. Est-ce que j'ai bien compris ou... Et alors, ma question c'est comment ces individus dont vous avez un peu présenté la trajectoire vivent forcément ce qu'ils doivent bien ressentir à un certain niveau comme un échec, puisque ce mouvement est contestataire, et en même temps, est-ce qu'ils ont vraiment réussi à briser ce carcan? J'ai l'impression que il y a quand même une forme d'échec dans leur entreprise qui est très louable, mais et qui pourtant se heurte à des structures qui sont finalement plus fortes que leurs tentatives. Reagan est remplacé par Trump, Thatcher est remplacé par toutes sortes d'épigones. Est-ce que vous qui avez étudié les figures de ce mouvement, est-ce qu'ils s'expriment? Alors, je ne sais pas, hip-hop, il fait partie de ce mouvement ou pas? Non, c'est pas ça.
Je suis pas sûr. Alors, il y a une certaine influence, en tout cas, alors, il semble.
Certains des membres des Stooges dont vous parliez, est-ce qu'il y en a qui sont encore vivants? Comment ils vivent maintenant là? Est-ce que vous savez comment ils vivent leur,
la situation actuelle. C'est une question difficile, hein, mais ça, mmh. c'est une vraie curiosité parce que j'entendais l'autre jour un chanteur, apparemment, j'ai oublié son nom parce que c'est pas mon style de musique, mais j'étais frappé du fait qu'il disait « There is no truth in mainstream ». Et on sentait qu'il était à la fois content d'avoir réussi et triste d'avoir réussi. Parce que pour lui, c'était une sorte de trahison de ce en quoi il croyait. Voilà, donc je ne sais pas si je faisais ma question est claire ou trop longue, elle est certainement trop longue, mais est-ce que vous avez, vous savez comment ils vivent cette espèce de d'écartèlement finalement ?
En fait, à travers mes recherches, j'ai remarqué que comment il y avait quand même beaucoup de figures négatives. Une des plus connues, c'est Sid Vicious, le bassiste, si je ne me trompe pas, des Sex Pistols pendant 2 ans. Et en fait, c'était une figure emblématique, mais en fait, les punks ont eu très vite une mauvaise réputation, que ce soit au niveau des concerts où il y avait beaucoup de dégâts, au niveau des manifestations où il y en avait aussi beaucoup, et il y avait aussi beaucoup de clichés sur leur consommation de drogue, dont par exemple Sid Vicious est mort à l'âge de 23 ans. Et en fait, on peut voir qu'au fur et à mesure des témoignages, justement, beaucoup de personnes au Royaume-Uni, surtout dans le contexte dans lequel on était dans les années 70, de tensions mondiales, notamment avec la guerre froide qui commençait à être de plus en plus importante, on voit bien qu'ils n'ont pas forcément eu une bonne image comparée à certaines personnes qui faisaient de la musique de leur côté. Je sais qu'il y a... Alors, c'est une grosse opposition que j'ai vue en faisant mes recherches, mais il y a une grosse opposition comparée au reggae, par exemple, qui n'a pas du tout la même attitude envers leurs fans ou tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait quand même justement une grosse vision de l'autorité qui voyait ces musiciens ou alors ces activistes comme des gens qui n'avaient aucun respect. Je sais qu'ils avaient célébré la mort de Margaret Thatcher avec des panneaux « The witch is dead ». Et comment justement beaucoup de gens n'ont pas apprécié ça parce qu'ils voyaient ça comme justement un manque de respect total. Et certaines personnes ont apprécié ça et ça a motivé beaucoup de gens, mais certaines personnes n'ont pas du tout aimé et ont voulu entre guillemets « blacklister » un peu le mouvement. Et pour certains groupes comme The Clash ou Sex Pistols, c'est devenu des groupes mainstream et très importants, notamment avec des sons « Should I stay or should I go », des sons comme ça. Mais on voit bien que c'était pas le but premier, ça c'est sûr, de devenir mainstream, et on voit quand même qu'il y a une part de réussite. Mais en soi, c'est un échec parce que ça fait que justement les gens qui ne sont pas concernés par le mouvement écoutent ces musiques et certaines fois ne comprennent pas le message derrière. Voilà.
C'était quand même un phénomène très très anglais, très anti-conservateur et anti-Thatcher. Il y a eu d'autres premiers ministres conservateurs après Thatcher et le mouvement punk n'était plus vraiment aussi présent.
Oui.
Parce qu'en France, ça n'a pas véritablement pris non plus.
Non, c'est vrai.
Alors c'est vrai que les années 80, c'était des années Mitterrand, donc c'était pas la même société non plus. Mais moi j'avais des copains de lycée qui étaient punk, mais c'était plutôt vestimentaire. Et puis vous écoutez Nina Hagen, et puis voilà, quoi, c'était, ou les Clash, mais ça s'arrêtait là.
Oui, c'était une traîne, quoi. Il y avait
pas de
revendication
idéologique, véritablement. Mm.
C'est juste pour répondre à votre question de base.
Oui.
Si les gens le prennent très mal. Et c'est pour ça que le mouvement punk existe toujours. Parce que
qu'est-ce qui prend mal le fait de ne pas réussir à changer le monde?
Ben, c'est toujours difficile de se rendre compte qu'on peut rien changer et que ça prend autant de temps de changer si peu le monde. Mais c'est pour ça que le mouvement existe toujours et c'est pour ça que les punks ne vont pas arrêter.
Non, mais je pense que ça, d'accord, que le costume soit renouvelé, très bien. Mais je pensais à ces grandes figures du mouvement, comment elles s'expriment justement sur leurs tentatives. Est-ce qu'elles sont amères? Est-ce qu'elles sont, elles se sont désignées? Est-ce qu'elles ont changé d'avis que maintenant la société sait très bien parce que la société les a adoubées? Vous voyez, c'était plutôt ça la question. Née de cette réflexion de ce chanteur dont le nom échappe, mais on sentait quelque chose de très sincère dans ce tiraillement entre la volonté d'être reconnu dans son art et en même temps la tristesse du fait de comprendre que ben voilà, il n'était pas reconnu pour les bonnes raisons, comme ce que vous disiez à l'instant.
Après, concrètement, c'est toujours le gros combat de David contre Goliath, quoi. Enfin, genre se battre contre les grosses institutions en essayant de démontrer les gros problèmes, c'est très compliqué. Donc forcément, ça entraîne des échecs, ce qu'on peut voir au fur et à mesure des années, sinon on n'en serait pas là actuellement. Mais pour autant, c'est pour ça qu'il y a toujours une énorme scène punk, surtout au niveau musique, à l'international, même si ça peut un peu passer inaperçu. Mais après, ça pose aussi la question de l'hypocrisie des personnes qui arrivent à percer dans le monde de la musique ou même littéraire, on va dire. Parce qu'effectivement, est-ce que c'est un échec d'avoir percé ou est-ce que c'est une réussite? Ça reste à voir. Donc c'est pour ça que c'est assez divers. En fait, c'est vraiment une idéologie principale je pense qui mène les gens à avoir un train de vie punk ou une mentalité punk, en fait. Ça pose la question de l'hypocrisie, en fait, dans ce milieu-là, et c'est assez compliqué, pour le coup, d'y répondre, enfin, je pense.
Vous avez raison, la question qui était derrière, en fait, la mienne, la question que je voulais poser, en fait, c'était le pouvoir politique de l'art. Quelle était vraiment la force politique d'un art? C'est toujours une question qui se repose à chaque fois sur des formes nouvelles.
Puis, pareil, est-ce qu'on est obligé de passer par le mainstream pour réellement se faire entendre ou pas? Ça reste aussi un problème, parce que alors désolé pour le terme, mais si on gueule pas assez fort, on risque pas de se faire entendre, en fait, finalement. Donc, est-ce qu'on passe par le mainstream pour propager nos idées plus facilement? Mais est-ce que c'est aussi se mentir à soi-même, ou du moins trahir justement le mouvement qu'on représente? En fait, c'est relativement assez profond à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas spécialement répondre à ça actuellement, je pense.
Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt pour vous m'éclairer. J'ai pas trop compris le rapport entre Camus et le punk, en sachant que Camus, si j'ai bien compris, est mort avant le punk.
C'est ma question.
Non. En gros, c'était juste pour faire un point, pour subtilement dire que même si le punk a explosé dans les années 70, alors il y avait toujours un peu, il y a toujours eu dans l'histoire des personnes qu'on peut considérer un peu comme des ersatz, qui étaient à contre-courant très clairement de la société et des codes sociétaux. Je veux dire, alors ça m'a fait plutôt rire quand j'ai pensé à ça pendant les recherches, mais si vous prenez l'exemple de Diogène à l'Antiquité, bon, c'est un peu la définition du punk aussi, tout le temps à contre-courant, tout le temps à trouver une solution aux choses. Sur le plan, ça me fait un peu rire, parce qu'il y a un peu de ça. Donc c'est juste, alors effectivement, Camus, autant que Sartre était son décédé avant une réelle explosion du punk, etc. Mais pour autant, leur vision a fait écho dans le mouvement plus tard, comme, si on cherche un peu plus loin, il y a beaucoup de personnes, je pense qu'on pourrait citer, qui sont considérées comme des ersatz, qui étaient forcément un contre-courant, et qui ont participé à cette naissance, en quelque sorte, d'un mouvement punk, en fait.
Pour revenir sur l'environnement et les aujourd'hui, alors j'ai un doute de comment c'était à l'époque, parce que je pense que c'était un phénomène qui était très minoritaire, mais qu'on pouvait voir. Aujourd'hui, on peut aussi parler d'un nouveau problème qui encore heureux et encore minoritaire, mais par exemple, il n'y a pas si longtemps, il y a eu plusieurs punks, bon, pas des figures célèbres en tant que temps, mais de gens qui appartiennent à cette punk, qui par exemple ont ouvertement soutenu Donald Trump, ce qui a fait péter un câble à tous les autres punks qui refusent que leur idée soit associée à ça.
Ça rejoint un peu ce que je disais justement sur le problème du côté mainstream et de l'hypocrisie qui peut y avoir dans le domaine, en fait. Ça reste une question, je pense, assez compliquée pour le coup, c'est tout. Mais je suis d'accord sur le fait que forcément il y a des gens qui ont dû gueuler à ce moment-là, ce qui est totalement logique. Mais après, encore une fois, est-ce que devenir mainstream change directement la pensée ou non? Je sais pas, c'est soit l'idéologie est ancrée en vous, soit pas du tout, ou alors c'est un faux semblant, c'est un peu bizarre.
Mais du coup, le punk, c'est juste un truc contre-courant, parce que dans ce cas-là, Hugo, il était punk aussi, il était pas de
l'animal. On va dire que pour le punk, t'as un côté un peu plus, je vais pas dire, j'ai envie de dire violent, mais c'est pas forcément ça, c'est un peu genre juste vraiment contre les codes, on va dire, vraiment imposés en l'occurrence. Genre tout à l'heure, Alexandre parlait de la différence entre le mouvement punk et reggae. Les punks ont toujours été vus comme plus ou moins violents, plus ou moins genre associés à la drogue, alcool, etc. Parce qu'il y a... Pardon ?
Le reggae aussi. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà...
Ouais, mais en termes... Oui, non, mais oui, mais je parle en termes de violence, le reggae quand même. Enfin, je veux dire, j'en ai fait quelques-uns. J'ai jamais vu personne se foutre une droite, tu vois, genre...
C'est... En termes de punk, j'ai vu personne se
foutre une droite. Non, mais... Je veux dire, t'as quand même une certaine... culture de la violence qui englobe le mouvement, en quelque sorte. Okay. Je dis pas que les gens se foutent sur la gueule, on s'est déjà croisés en concert par exemple, Genre, donc que ce soit dans le métal, dans les concerts de punk, etc., ou quoi que ce soit, c'est juste une espèce de façade de violence, mais enfin, forcément que c'est pas... Je sais pas, comment dire, en fait. Bah, c'est pas tellement des clichés, parce que tu vois, le mouvement, enfin, du moins, les... comment dire, la propagation des idées se fait par une certaine violence, en quelque sorte. Parce que du coup, ça va avoir tendance un peu plus à choquer. Je sais pas, dis-moi.
Vous parliez de l'anarcho-punk avec Trace et Conflict, qui était profondément anti-militariste et pacifiste. Pourquoi est-ce qu'ils auraient prôné des idéaux de violence alors qu'ils organisaient des soupes populaires, que Trace avait un manoir où ils accueillaient justement des sans-abri et des défavorisés? Donc la notion de violence, c'est uniquement musicale. Le pogo, même si de façade ça paraît violent, ce n'est pas des coups sur la gueule non plus.
C'est qu'on s'entend surtout. Ben non, mais c'est hyper important. Enfin, si moi demain je vais me faire fouetter, si j'ai envie, c'est OK quoi.
Non, mais je suis d'accord.
À part des mouvements comme le straight edge, même le hardline plus tard qui ont émergé de la scène hardcore, il y a eu une revendication de la violence.
Alors, je suis d'accord. Et c'est là où je m'exprime très mal. Non, je suis d'accord, bien évidemment, qu'il n'y a jamais eu de revendication de la violence. Bon, à part si on regarde du côté un peu Mayhem, etc. Mais ça, c'est encore une autre affaire. Oui, non, mais voilà, c'est parce qu'il en parlait tout à l'heure. Donc, il y a forcément des dérivés qui font que. Mais même encore maintenant, je regarde, tu regardes... prends l'exemple du Jimmy Kimmel Live, il n'y a pas longtemps, avec Knuckles. Les gens, ils ont vu, derrière la performance artistique, ils ont surtout vu de la violence. Je veux dire, c'est ce qui est retenu par, on va dire, la masse en général. Donc c'est pour ça que, genre, on va dire, ça fait un peu façade au mouvement. Je sais pas si...
Je vois ce qui veut dire, mais en fait, ça va de pair avec l'aseptisation latente politique. Par exemple, quand les Clash ou les Ramones ont signé plus tard avec des grands labels, ils ont été vus notamment comme des traîtres, parce que l'ironie est de l'OPDI White, l'autodétermination. Et je pense, du coup, je ne suis pas spécialiste non plus, mais je pense que ça a aidé à lisser un peu le mouvement. Tandis que maintenant, on n'a plus forcément une vision négative du punk, ça vient peut-être de là, que des groupes qu'on a considérés comme novateurs de la scène, avec des grands labels, ça a ouvert à la radio, enfin, Rock the Casbah, par exemple, ça reste dans un esprit punk, c'est beaucoup plus léger que ce qu'ont pu produire les Clash ou les Sex bien avant. Donc, est-ce que ça n'a pas aidé aussi à une meilleure acceptation de la scène punk, tout en reniant un peu l'engagement politique qu'il pouvait y avoir derrière?
C'est encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on est obligé de passer par le mainstream pour se faire un peu entendre et devoir se lisser un petit peu pour faire passer nos propos? Je ne sais pas, est-ce que c'est forcément une trahison de faire ça? Pas forcément. C'est... En fait, la question elle reste ouverte, enfin, ça dépend du point de vue de chacun aussi en soi. Mais je suis d'accord, de mon point de vue, il y a forcément un besoin d'être un peu plus lisse si on veut faire comprendre entre guillemets plus facilement nos idéaux, devenir un peu plus mainstream, du moins pour pouvoir les propager, on va dire, un peu plus à l'international. Enfin, c'est très basique ce que je dis, mais enfin, c'est le principe. Quoi.
Ça, c'est juste pour rebondir sur votre remarque, sur le fait que peut-être ce que tu veux dire, c'est surtout l'image du punk en lui-même qui n'est pas bien, vue, et c'est pas parmi les punks même. C'est peut-être plus, par exemple, sur la génération de nos parents. Par exemple, si je parle d'un punk à mes parents, il y a grand chose qui eux est en fait l'image crâne à moitié rasé, grande crête de 3 mètres, 26 drogues dans le sang et je ne sais quoi encore à faire des pogos, à taper sur tout le monde. C'est pas une image vraie, même s'il y a des gens qui y ressemblent, c'est pas une image vraie, mais c'est l'image qu'on en a et pour le coup ça revient un peu au stéréotype. Je suis pas trop d'accord avec lui, ça revient quand même un peu à du stéréotype, du moins à une généralisation de cette image, parce que je vois. Quand, je ne sais pas si tu l'as eu Aurélie, quand tu dis à quelqu'un qui ne savait pas qu'il y avait une licence nordique à Caen, qui est là en mode « Ah mais t'es nazi !» Parce que les nordiques bizarrement sont associés à une idéologie nazie, alors que du moins dans j'ai pas, il y en a qu'on a pu questionner, mais il n'y a pas une majorité de nazis.
Moi non,
voilà, ça reste une image. Et en ça, du coup, le punk, c'est un peu pareil. C'est pas bien vu dans une majorité des avis. C'est pas bien vu. Et c'est plus quand on est proche, en quelque sorte, des punks, du moins quand on connaît, qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas aussi violent qu'on veut nous faire croire.
Oui, mais en fait, là, ce qu'on disait, Sacha, c'est plus. On comprend bien que le. Enfin,
l'habit ne fait pas loin, c'était juste dommage de prôner ça dans un dans une présentation du punk. Aucune haine. Évidemment, c'était nice. Mais c'est juste dommage de montrer ça et de pas d'expliquer, de pas expliquer ce que c'est un pogo. J'ai l'impression que c'est un petit problème aussi. Mais oui, c'est plus en mode de montrer ça dans l'exposé, ça donne l'impression que c'est que ça et ça participe à la désinformation.
Ouais, je suis d'accord
avec toutes ces personnes.
La conversation après avec les intervenants, si vous voulez, on va s'arrêter là pour les.